Ben-Hur, chapitre 14, Simonide et Esther. De bonne heure, le lendemain, Ben-Hur se mit à la recherche de la maison de Simonide. Il s'arrêta un moment sur le pont, d'où, grâce à la description du voyageur, il lui fut aisé de la découvrir. C'était un grand bâtiment, d'aspect banal, qui s'appuyait comme un arc-boutant à la muraille de la ville. Deux grandes portes, ouvrant sur le quai, coupaient seules la monotonie de la façade. Une rangée d'ouvertures grillées, pratiquées sous le toit, tenait lieu de fenêtres. Les murs crevassés étaient couverts de plaques de mousse noirâtre et de touffes d'herbe. De nombreux esclaves allaient et venaient entre la maison et les galères, à l'ancre dans le bassin voisin, qu'ils chargeaient et déchargeaient avec une activité incessante. Ben-Hur considérait ce spectacle sans songer à jeter un regard au palais impérial, qui élevait ses tours et ses corniches sculptées au-dessus de l'île, de l'autre côté du pont. Enfin, il touchait au moment où il entendrait parler de sa famille, si Simonide avait bien été l'esclave de son père. Mais cet homme, en conviendrait-il? Ferait-il un aveu qui équivaudrait à se déclarer prêt à renoncer à ses richesses, à la souveraineté qu'il exerçait sur les marchés du monde entier, et, ce qui serait plus grave encore, à sa liberté? La demande que Ben-Hur allait lui adresser était singulièrement audacieuse. Elle revenait à lui dire « Tu es mon esclave, donne-moi tout ce que tu possèdes, y compris toi-même. » Cependant, fort de son bon droit et de ses espérances, Ben-Hur se préparait sans crainte à cette entrevue. Si ce qu'il avait entendu raconter se confirmait, Simonide lui appartenait légalement avec tous ses biens. Mais il se souciait peu de ces derniers, et quand il arriva devant sa porte, il se disait « Qu'il me parle de ma mère et de Tirza, et je lui accorde sa liberté, sans restriction. » L'intérieur de la maison, dans laquelle il entra hardiment, était celui d'un vaste entrepôt, partagé en compartiments, où les marchandises de toutes sortes étaient rangées dans l'ordre le plus parfait. Malgré une demi-obscurité et une chaleur étouffante, des ouvriers y travaillaient, sciaient des planches, clouaient des caisses, et Ben-Hur se demandait, tout en se frayant lentement un chemin dans cette ruche bourdonnante, si l'homme au génie duquel tout ce qu'il voyait rendait hommage pouvait avoir été un esclave. Était-il né dans la servitude ou bien était-il le fils d'un débiteur? Avait-il payé de sa personne ses propres dettes ou était vendu pour cause de vol? Toutes ces questions, à mesure qu'elles se présentaient à sa pensée, ne l'empêchaient pas d'éprouver une sincère admiration pour le marchand qui avait su créer une maison de commerce comme celle-là. Un homme s'approcha de lui et s'informa de ce qu'il désirait. « Je voudrais voir Simonide, le marchand. »« Viens par ici, » répondit l'employé, qui le précéda le long d'un labyrinthe d'étroits passages, ménagé entre de grands amoncellements de ballots, et lui fit ensuite gravir un escalier par lequel ils gagnèrent le toit de l'entrepôt. Au fond s'élevait une seconde maison, plus petite, que l'on ne pouvait apercevoir d'en bas. Elle avait l'aspect d'un énorme bloc de pierre carrée et tout alentour, le toit avait été transformé en un jardin où brillaient les plus belles fleurs. Un sentier bordé de rosiers de Perse en pleine floraison conduisait à une porte ouvrant sur un passage sombre. Le guide de Ben-Hur s'arrêta devant un rideau demi-fermé et cria « Voici un étranger qui désire voir le maître !»« Qu'il entre, au nom de Dieu !» répondit une voix claire. Un Romain aurait appelé l'appartement dans lequel Ben-Hur venait d'être introduit son atrium. Des étagères de bois sur les rayons desquelles s'entassaient des rouleaux de parchemin soigneusement étiquetés garnissaient ses murailles. Une corniche dorée courait tout autour de la salle. Elle servait de base à une voûte terminée par un dôme formé de plaques de mica légèrement teintées de violet qui laissait pénétrer dans l'appartement un flot de lumière douce et reposante. Sur le plancher s'étendait un tapis de peau de blaireau, si épais que les pieds y enfonçaient sans faire le moindre bruit. Au milieu de la chambre se trouvaient deux personnes, un homme assis entre deux coussins dans un large siège à haut dossier et une jeune fille debout à côté de lui. À leur vue, Ben-Hur sentit tout son sang affluer à son visage. Il s'inclina profondément, autant pour se donner le temps de se remettre qu'en signe de respect, ce qui l'empêcha de remarquer que le marchand, en l'apercevant, avait tressailli sous l'empire d'une émotion évidente. mais vite réprimé. Quand il releva la tête, la position du père et de la fille était toujours la même. Ils le regardaient fixement tous les deux. « Si tu es bien Simonide, le marchand, et si tu es juif, » ici Ben-Hur s'arrêta un instant, « que la paix du Dieu de notre père Abraham soit avec toi et avec les tiens. » « Je suis Simonide, juif par droit de naissance, » dit le marchand d'une voix singulièrement claire, « et je te rends ta salutation en te priant de m'apprendre qui tu es. » Ben-Hur le regardait tout en l'écoutant. Son corps n'était qu'une masse informe, recouverte d'une robe ouatée en soie de couleur foncée. Sa tête avait des proportions royales. C'était l'idéal d'une tête d'homme d'État ou de conquérant. Ses cheveux blancs, qui retombaient en mèches frisées sur son visage pâle, accentuaient le sombre éclat de ses yeux. Son expression était celle d'un homme qui eût fait plier le monde plus aisément qu'on ne l'aurait fait plier lui-même, qui se serait laissé torturer 12 fois plutôt que de se laisser arracher un aveu. D'un homme, enfin, né avec une armure et vulnérable seulement dans ses affections. « Je suis Judas, fils d'Ithamar, le chef défunt de la maison d'Ur, » s'écria le jeune homme en tendant les mains vers lui. La main droite du marchand, une main longue, étroite, désarticulée et déformée, se ferma convulsivement. À part cela, rien dans sa personne n'exprima la moindre surprise, et ce fut d'un ton calme qu'il répondit « Les princes de Jérusalem sont toujours les bienvenus dans ma maison. Donne un siège à ce jeune homme, Esther. » Elle prit une chaise et l'avança vers Ben-Hur. Leurs yeux se rencontrèrent, et doucement elle lui dit « Assieds-toi, je te prie, et que l'Éternel t'accorde sa paix. » Quand elle reprit sa place près de son père, sans avoir deviné le but de la visite de l'étranger, elle sentit dans sa simplicité qu'un blessé de la vie venait chercher du secours auprès d'eux. Ben-Hur restait debout. Se tournant vers le marchand, il lui dit avec déférence « Je prie Simonide de ne point me considérer comme un intrus. J'ai appris en remontant la rivière qu'il avait connu mon père. J'ai en effet connu le prince Ur. Nous étions associés dans plusieurs affaires qui rapportent aux marchands des profits mérités, là-bas, au-delà des mers et des déserts. Mais assieds-toi, je te prie. Et toi, Esther, offre-lui un peu de vin. » Néhémie parle d'un fils d'Ur qui gouverna la moitié de Jérusalem, une ancienne famille, très ancienne assurément. Au jour de Moïse et de Josué, quelques membres de cette famille, ayant trouvé grâce devant l'Éternel, ont partagé les honneurs rendus au prince parmi les hommes. Un de leurs descendants ne refusera pas de boire dans ma maison une coupe de vin de Sorek, crue sur le revers méridional des collines d'Hébron. Il avait à peine fini de parler qu'Esther, les yeux baissés, présentait à Ben-Hur une coupe d'argent. Il repoussa doucement sa main et remarqua alors que la jeune fille était petite, mais très gracieuse, et que son visage fin et délicat était éclairé par des yeux noirs au regard caressant. « Elle est bonne et jolie, » pensait-il. « Si Tirza vit encore, elle doit lui ressembler. Pauvre Tirza !»« Ton père, » lui dit-il, « mais est-ce bien ton père qui est là ?»« Je suis Esther, la fille de Simonide, » répondit-elle avec dignité. « Ton père donc, belle Esther, quand il aura entendu ce que j'ai à lui dire, comprendra que je ne me presse pas de boire son vin fameux, et ne m'en jugera pas plus mal pour cela. J'espère également n'en pas moins trouver grâce à tes yeux. Reste près de moi un moment. » Ils se tournèrent en même temps vers le marchand, comme si la cause de l'un était devenue celle de l'autre. « Simonide, dit Ben-Hur d'une voix ferme, mon père, au moment de son départ, possédait un homme de confiance appelé comme toi, et j'ai entendu assurer que tu es cet homme-là. » Le marchand frissonna sous sa robe de soie et sa longue main décharnée se contracta. « Esther, Esther, » cria-t-il d'une voix sévère, « reviens ici. aussi vrai que tu es la fille de ta mère et la mienne, ta place est ici et non là-bas. » Les yeux d'Esther errèrent un moment du visage de son père à celui de l'étranger, puis elle posa la coupe sur la table où elle l'avait prise et revint docilement auprès du fauteuil de l'invalide. Son visage exprimait à la fois la surprise et l'anxiété. Simonide leva sa main gauche et la glissa dans celle de sa fille. « L'expérience que j'ai acquise en frayant avec les hommes m'a rendu vieux avant le temps, » reprit-il. « Que le Dieu d'Israël soit en aide à quiconque se voit contraint, au terme de sa carrière, d'avouer comme moi qu'il ne croit plus à leur bonne foi. Les objets de mon affection ne sont pas nombreux. Le premier, il porta la main de sa fille à ses lèvres, est une âme qui jusqu'ici m'a appartenu entièrement et m'a été en si grande consolation que si quelqu'un venait à me l'enlever, je mourrais. Les autres ne sont plus qu'un souvenir. L'amour que je leur portais était comme une bénédiction de l'Éternel, assez grand pour s'étendre à toute leur famille. Que ne sais-je, et sa voix, devenue soudain plus basse, tremblait. Que ne sais-je où elles sont maintenant ? Ma mère, ma sœur, c'est d'elle que tu parles. » Esther leva la tête, comme si se fût adressé à elle, mais Simonide répondit froidement : « Écoute-moi jusqu'au bout. Avant de répondre à tes questions sur mes relations avec le prince Hur, je suis en droit d'exiger en mon propre nom et au nom même de l'affection à laquelle je faisais allusion que tu me fournisses des preuves de ton identité. As-tu des témoins vivants à faire comparaître devant moi, des témoignages écrits à me donner à lire ?» Cette demande était justifiée, mais Ben Hur, en l'entendant, rougit, joignit les mains et se détourna. Simonide le pressait de parler. « tes preuves, te dis-je » Ben Hur ne répondait pas. Il comprenait une chose terrible. Il avait suffi de 3 années de galère pour effacer toute trace de son identité. Sa mère et sa sœur n'étaient plus là pour le reconnaître. Il n'existait plus pour personne. Qu'aurait pu dire Arius lui-même, si ce n'est qu'il se donnait pour le fils du prince Hur? Mais le brave Romain était mort, et jamais Judas n'avait aussi cruellement senti l'isolement complet dans lequel sa mort le laissait. Il restait immobile, les mains serrées l'une contre l'autre, et Simonide, qui respectait sa douleur, se taisait aussi. « Simonide, dit enfin le jeune homme, je ne puis que te raconter mon histoire, mais je le ferai seulement si tu veux bien suspendre ton jugement et daigner m'entendre. « Parle, dit Simonide, qui était en ce moment le maître de la situation. « Parle, je suis d'autant plus décidé à t'écouter que je ne nie point que tu ne puisses être celui que tu prétends. » Ben Hur commença aussitôt son récit. Il parlait avec l'émotion qui est le secret de toute vraie éloquence. Quand il eut raconté son arrivée à Mysène, après la victoire d'Arius dans la mer Égée, il parla de son séjour à Rome. « Mon bienfaiteur, dit-il, était aimé de l'empereur, dont il possédait la confiance et qui le combla de récompenses. Les marchands de l'Orient lui firent aussi de magnifiques présents et il devint riche entre les plus riches de Rome. Cet homme excellent m'adopta en toute forme, et je m'efforçai de reconnaître sa générosité envers moi. Jamais fils ne fut plus soumis à son père, mais j'étais juif, et un juif pourrait-il oublier sa religion ou le lieu de sa naissance, surtout quand ce lieu se trouve sur la terre sacrée où vécurent nos pères. Il aurait voulu faire de moi un savant, me donner les maîtres les plus fameux pour m'enseigner les arts, la philosophie, la rhétorique, l'éloquence. Je résistais à ses instances, parce que je ne pouvais oublier le Seigneur éternel, la gloire de ses prophètes et la cité bâtie sur les collines de David et Salomon. Tu me demanderas pourquoi j'acceptais ses bienfaits ? Je l'aimais, et puis je me disais qu'un jour je pourrais, avec son aide et grâce à sa grande influence, arriver à percer le mystère qui entoure l'histoire de ma mère et de ma sœur. J'avais encore un motif, dont je ne parlerai que pour te dire qu'il m'a poussé à choisir la carrière des armes. Je me suis exercé dans les écoles, dans les cirques et dans les camps, où je me suis acquis une certaine renommée sous un nom qui n'est pas celui de mes pères. Les couronnes que j'ai gagnées, et il y en a un grand nombre, suspendues aux murailles de ma villa de Misène, ont été accordées au fils d'Arius. Ce n'est qu'en cette qualité que je suis connu à Rome. Toujours en vue du but que je poursuis, j'ai quitté Rome pour Antioche, dans l'intention d'accompagner le consul Maxence dans sa campagne contre les Parthes. Maintenant que je possède à fond l'art de me servir des armes, je désire apprendre à mener les hommes au combat. Je suis admis à faire partie de la maison militaire du consul. Mais hier, tandis que nous entrions dans l'Oronte, je vis passer deux bateaux portant des pavillons jaunes. Un passager, un de nos compatriotes venant de l'île de Chypre, nous expliqua que ces vaisseaux appartenaient à Simonide, le plus riche marchand d'Antioche, et, sans se douter de l'intérêt qu'il éveillait en moi, il ajouta que Simonide était un juif autrefois au service du prince Hur, et ne nous cacha point pourquoi il avait été l'objet des cruautés de Gratien. À cette allusion, Simonide baissa la tête, mais il surmonta bien vite son émotion que sa fille semblait partager, et, levant les yeux, il pria d'une voix ferme Ben-Hur de continuer son récit. « Ô bon Simonide, s'écria le jeune homme, je vois bien que tu n'es point convaincu et que ta méfiance pèse toujours sur moi. » Les traits du marchand étaient rigides comme le marbre. Il ne répondit pas. « Je vois clairement les difficultés de ma position, continua Ben-Hur. Je puis faire constater la vérité de tout ce que je t'ai dit au sujet de mon séjour à Rome. Je n'ai pour cela qu'à en appeler au consul, qui est en ce moment l'hôte du gouverneur. Mais je ne puis te prouver que je sois réellement le fils de mon père. Celles qui pourraient m'aider sont, hélas, mortes ou perdues pour moi. » Il couvrit son visage de ses mains. Esther reprit la coupe et la lui tendit en disant « Ce vin accru au pays que nous aimons, bois-le, je te prie. » Sa voix était douce comme celle de Rebecca offrant à boire à Eliezer. Ben-Hur vit que ses yeux étaient pleins de larmes. Quand il eut vidé sa coupe, il la lui rendit en disant « Ton cœur est plein de bonté et de miséricorde, fille de Simonide. Béni sois-tu de ce que tu fais une place à l'étranger. » Puis il reprit son discours. « Comme je ne puis répondre à ta question, ô Simonide, je retire celle que je t'adressais et je m'en vais, pour ne plus jamais revenir te troubler. Laisse-moi seulement t'assurer que je ne songeais ni à te faire entrer dans la servitude, ni à te demander compte de ta gestion. Je t'aurais dit que le produit de ton travail t'appartient en propre. Je te l'abandonnerai de grand cœur, car je n'en ai nul besoin, puisque j'ai hérité de la fortune princière du bon Arius. Si donc il t'arrive de penser à moi, souviens-toi que la question qui faisait, je te le jure par Jéhovah, ton Dieu et le mien, le but de ma visite était celle-ci. Que peux-tu m'apprendre au sujet de ma mère et de Tirza, ma sœur, qui serait aujourd'hui pareille par la beauté et la grâce à celle qui est la joie de ta vie? Oh, parle, que sais-tu d'elle? » Les larmes coulaient le long des joues d'Esther, mais son père se contenta de répondre « Je t'ai dit que je connaissais le prince Hur. Je me souviens d'avoir entendu parler de la catastrophe qui atteignit sa famille et de l'amertume que cette nouvelle me causa. Celui qui plongea la veuve de mon ami dans le malheur est aussi celui qui, dans le même but, m'a fait sentir les effets de sa fureur. J'irai plus loin et je te dirai que j'ai fait des recherches au sujet du sort des membres de cette famille, mais je n'ai rien à t'apprendre. Ils ont tous disparu. » Ben-Hur poussa un sourd gémissement. « Il faut donc que je renonce à l'espoir qui m'a mené ici, » s'écria-t-il. « Mais je suis habitué au désappointement, et je te prie de me pardonner de m'être ainsi introduit auprès de toi. Si j'ai encouru ton déplaisir, pardonne-le-moi également, en songeant à la profondeur du chagrin qui m'accable. Désormais, je n'aurai plus qu'un but dans la vie, la vengeance. Adieu. » Au moment de disparaître derrière le rideau qui fermait la pièce, il se retourna et leur dit simplement « Je vous remercie tous deux. » « La paix soit avec toi, » répondit le marchand. Esther n'aurait pu parler, car elle sanglotait. Ce fut ainsi qu'il les quitta.